Voilà. Alors, on va se remettre un petit peu dans le bain de l'année dernière. J'avais beaucoup apprécié l'année dernière le travail de plusieurs groupes de maisons qui ont envoyé les études bibliques qu'ils avaient fait ensemble. Et c'était très, très intéressant. Et encore félicitations et merci à tous ceux qui ont participé. Je pense que vous aussi, vous en avez profité. Et on va recommencer cette année. Alors, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer, mais si vous voulez, si vous pensez que vous avez trouvé aussi des choses importantes, c'est bien de me l'envoyer. Ça me permet de l'utiliser aussi pour le message suivant. J'en ai déjà utilisé plusieurs de vos idées qui étaient vraiment très inspirées. Parce que imaginez qu'il n'y a pas que le prédicateur qui trouve des choses en lisant la Bible. Vous en trouvez largement autant et parfois des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Donc, c'est aussi un travail de groupe. Ça marche cette fois ? Tiens, je te fais un cadeau. Merci. Donc, on va recommencer cette année. Alors, simplement aujourd'hui, on va essayer de se remettre dans le bain parce que ça fait quand même un an et l'histoire de David, c'est peut-être un petit peu parti là. Surtout qu'on rentre dans une période de la vie de David que je qualifierais vulgairement de pas marrante. Il n'y en a pas beaucoup qui sont drôles d'ailleurs. Mais là, on est dans une période un peu grise, un peu sombre, un peu à l'image du mois de janvier, avec tous ces microbes. Encore une période de grosse turbulence pour David. Et je profitais qu'on avait pris 5 jours de vacances pour m'avancer un petit peu dans la lecture des textes que, bien sûr, j'ai déjà lus, mais quand je les relis, je me dis, oh misère, c'est pas possible. Tout ce qui lui est arrivé à ce pauvre homme, mais c'est pas possible. Imaginez ce jeune berger qui n'a rien demandé à personne, qui est tranquille, tranquille derrière ses moutons, qui en profite pour jouer de la musique, il utilise intelligemment son temps, il n'y avait pas de téléphone dans ce temps-là, donc il utilisait intelligemment son temps, et il en profitait pour chanter des cantiques, pour jouer de la musique, surveiller ses bêtes et les protéger. Et voilà qu'on lui tombe dessus, on lui dit « Viens, il y a un sacrificateur là qui veut te voir, c'est un prophète, il s'appelle Samuel. » Bon, d'habitude on ne l'invite pas parce que c'est le petit berger. Normalement, ce n'est pas le fils de la maison qui doit garder les moutons, donc c'est un peu spécial. Hein. Jacques Poujol pense qu'il y avait d'autres raisons familiales pour qu'il soit mis à l'écart. Mais lui, il était content de sa vie. Et là, on l'appelle, il y a un repas, et puis on lui donne l'onction royale. Non, mais il n'avait rien demandé. Et souvent, moi, j'ai un peu pitié de David, parce que je me dis, mais il était tellement bien derrière ses moutons. Et là, il est projeté dans un monde de violence, de haine, de jalousie, pour tout le reste de sa vie. Bon, c'est pas drôle, hein, je commence avec quelque chose d'un peu triste. Alors on va revenir, on avait fait toute la vie de David jusqu'à Goliath, etc. Comment il est devenu tout proche du roi Saül. Et on peut dire que ça a été une période de sa vie assez agréable, puisqu'il jouait de la musique à la cour, c'était pas trop mal. Et il était bien aimé, il s'est fait le meilleur copain de sa vie, Jonathan, le fils du roi. Il y a quand même eu une période un peu cool. Manque de chance. Les femmes de Jérusalem, qui étaient très enthousiastes, chantaient dans la rue. Saül a battu ses 1000, mais David ses 10 000. Et là, la jalousie de Saül a éclaté. À tel point, il est devenu tellement jaloux du courage de David, de ses qualités de soldat, qu'il va chercher à le tuer. Alors, vous vous souvenez, on a passé par tous ces épisodes. Finalement, il doit fuir. Et Jonathan, qui n'arrive pas à croire que son père va aller jusque-là, est obligé de reconnaître que oui, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'enfuis. David va s'enfuir, avec l'aide de Jonathan, bien sûr. Mais pendant plusieurs années, il va passer son temps à fuir devant Saül qui le poursuit. Alors vous imaginez, ce jeune qui n'avait rien demandé à personne, il avait eu la victoire sur Goliath, il était devenu un très bon chef militaire, il était aimé du peuple, aimé de l'armée évidemment, puisque c'était un bon chef d'armée. C'est ce que nous raconte la Bible. Et là, il est obligé de fuir, fuir, fuir. Et pour comble, ses seuls amis, ça va être une bande de 600 personnes en tout genre. Des mécontents, dit la Bible. Il doit y avoir pas mal de Français là-dedans. Des mécontents. Donc nous, on sait ce que c'est que des mécontents. Je ne sais pas s'ils portaient des gilets jaunes à l'époque. Il est avec cette troupe. Oui, on pourrait assez imaginer une troupe de gilets jaunes avec lui. 600 comme ça, toute la journée, nuit et jour, avec leur famille et tout. Mais c'était des soldats, pas forcément très bien entraînés, mais voilà, ils étaient prêts à se battre, prêts à en découdre. Voilà la vie de David. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas se remémorer les choses, David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000, ça fait 3000 pour nous maintenant. Vous imaginez. Et ce que je trouve incroyable quand on lit la Bible, c'est qu'on ne sent pas la différence d'époque. Pour ce qui est des sentiments, pour ce qui est de la vie spirituelle de la personne, on ne sent pas la différence. Les émotions, les difficultés, les chagrins, ce sont les mêmes. 3000 ans sont passés. Et ça, c'est incroyable. C'est quelque chose dont je raffole dans la Bible. Elle est tout aussi actuelle qu'un texte qui serait écrit là, en ce moment. C'est fou, hein ? Alors, bien sûr, il y a quelques petits détails qui demandent des explications. Pour prendre un dictionnaire biblique ou une concordance de temps en temps, parce que la civilisation hébreu de l'époque n'était pas quand même exactement la même que la nôtre. Mais globalement, pour tout ce qui est sentiment du cœur, émotion, la façon de vivre, les réactions, on s'y retrouve complètement, 3000 ans plus tard. Parce que la Bible est très authentique. Et là, je sais que je le dis chaque année, mais je ne le répéterai jamais assez. La Bible est un livre d'une très grande authenticité. C'est ahurissant. Dans les contes de fées ou dans les mythologies, c'est toujours « il était une fois dans un pays lointain ». On met ça le plus loin possible, comme c'est complètement faux. Non, la Bible, on retrouve les personnages, on retrouve les lieux, on retrouve, suivant l'époque, plus ou moins les dates, en tout cas les époques. C'est un livre qui est ancré dans la réalité, dans la géographie, dans l'histoire, même si ce n'est pas un livre d'histoire à proprement parler, parfaitement chronologique, avec tous les détails bien scientifiques, non. Mais on retrouve les époques, on retrouve les fêtes. Et les archéologues, aujourd'hui, ne font que confirmer des choses qui étaient dans la Bible. Vous savez, l'exemple que je donne toujours, c'est M. Blocher qui m'avait raconté ça. Pendant des siècles, au moins 2 siècles, on a dit les Hittites n'existent pas. Pourquoi ? Ah bah parce qu'on ne les voit que dans la Bible. Bah voyons, puisque c'est dans la Bible, c'est forcément faux. L'Énéide, tout ça, ouais, c'est fiable. Et un jour, on a fait une découverte terrible. Plein de documents sur les Hittites. On ne s'est pas excusé, mais maintenant on sait que les Hittites, ce n'est pas parce qu'ils étaient cités que dans la Bible, ils ont existé. Et d'ailleurs, on va voir que David en a à côté de lui, un Hittite. Pas très sympa, je trouve. Alors, le roi Saül, de son côté, il a été rejeté par Dieu, vous vous souvenez, à cause de ses désobéissances, nombreuses. Et pas forcément à cause de ses désobéissances, mais c'est surtout à cause du fait qu'il n'a jamais voulu reconnaître les faits et demander pardon. Parce que souvent, on a l'impression, oh, Saül, c'était un vilain garçon quand même. Pas plus vilain que David, hein. Mais la différence, c'est que lui, Saül, c'était toujours la faute des autres quand il y avait un problème. Ah, c'était toujours les autres, le peuple, etc. Mais c'était jamais lui. Du coup, il n'a pas pu changer et un jour, Dieu l'a complètement rejeté en tant que roi. Pas en tant qu'homme, mais en tant que roi. Le prophète Samuel, qui avait donné l'onction royale à Saül bien avant David, pour lui, les années sont passées. Là, pour le texte où on est aujourd'hui, et il est décédé. On lui a fait des funérailles nationales, bien sûr. Mais c'est pas plus drôle pour David. Il a même plus maintenant Samuel pour le protéger. Et il passe son temps à fuir d'un lieu à l'autre avec sa petite troupe de 600 hommes. Alors, vous allez me dire, mais 600, ça passe pas inaperçu. Surtout qu'ils n'étaient pas seuls, hein. Souvent, ils étaient avec leur famille. Peut-être leurs serviteurs, pour certains. Donc, ça devait pas être simple. Ça devait se voir. Et partout où ils allaient, il fallait qu'ils mangent. Pensez aussi techniquement ce que ça représentait de se balader avec une troupe de 600 personnes, plus les femmes, les enfants, serviteurs. Donc c'était un problème pour David. Il fallait qu'il gère cette petite troupe avec sagesse. Et c'était des gens ingérables a priori, donc ça ne devait pas être simple. Il faut toujours penser à ça. Alors l'histoire sur laquelle on s'était arrêté, on va y revenir rapidement, ça s'est passé au sud de Jérusalem, entre Mahon et Carmel. Vous voyez les histoires bibliques, on peut les situer, des lieux qui existent toujours, qui sont toujours aussi désertiques d'après ce que j'ai compris. Très beau, mais pas très fertile. Et avec sa troupe, ils avaient passé plusieurs mois à protéger les troupeaux d'un certain monsieur Nabal. C'était sympa de leur part. Je pense que ce n'était pas totalement désintéressé, parce que quand ils poursuivaient les troupes de voleurs qui faisaient des razzias, ils devaient récupérer les butins. Il fallait qu'ils vivent, qu'ils mangent, et c'était assez courant à l'époque. Il y avait, à l'époque, ça l'histoire nous le dit, des groupes de nomades, en quelque sorte, qui se spécialisaient dans les razzias. D'ailleurs, c'est pour ça que, dans les villes en Israël, vous avez peut-être entendu ce psaume « Porte, élevez vos linteaux ». On l'a chanté, etc. Eh bien, ils avaient trouvé le truc à l'entrée des fermes, des grandes fermes ou des villes. On faisait des portes avec des linteaux très bas. Et il y avait une raison. Il fallait descendre de sa monture pour rentrer dans la ville ou dans la ferme. Parce que sinon, ces groupes qui faisaient des razzias, ils avaient trouvé le truc. Ils rentraient dans les fermes à toute allure, sur des petits chevaux légers et rapides, et ils chopaient, sans descendre, tout ce qu'ils trouvaient. Et ils repartaient, oh, avec un mouton, avec des volailles, avec un sac de grains, enfin, ce qu'ils trouvaient, et hop, ils repartaient. Et ils s'étaient spécialisés en ce genre de razzia. Et David, qui avait déjà le souci, toujours d'ailleurs, de son peuple, puisqu'il avait eu l'onction royale, même s'il ne pouvait pas exercer, eh bien, plutôt que de rester à rien faire avec ses 600 hommes, il fait la chasse à ses voyous. Et il était efficace, c'était un chef d'armée quand même, un bon militaire, très courageux. Et il poursuivait ses voleurs, et lui, ça lui permettait de vivre. Et puis, en même temps, il protégeait tous les éleveurs du coin, toutes les fermes qui étaient dans la région. Elle ne ressemble pas aux fermes normandes, hein, mais il y avait quand même des grands troupeaux de chèvres, de moutons, etc. Donc il les protégeait. En même temps, il tissait des bonnes relations avec les bergers, nombreux, dans la région. Donc ces hommes étaient occupés en même temps à protéger les bergers, chasser les voleurs, protéger les troupeaux et accompagner les déplacements des troupeaux, parce que l'herbe était rare. Donc les bergers avaient pris cette habitude de bouger. Parce que il paraît que si on reste trop longtemps sur place, les moutons ont une fâcheuse tendance à arracher l'herbe avec les racines et après ça repousse plus. Donc, vu la sécheresse, il fallait se déplacer régulièrement pour que l'herbe ait le temps de repousser. Voilà. Donc, les voilà dans cette zone un peu désertique, au sud de Jérusalem, à peu près 30 km, à protéger les troupeaux. Alors, il n'y avait pas de loi très précise pour ça à l'époque. Mais la coutume voulait qu'au moment de la fête qui clôturait la période de tonte, tondait les moutons, on invite les amis et les voisins, parce qu'on appréciait l'entraide, des bergers entre eux, des propriétaires entre eux, et on faisait une énorme fête pour fêter la tonte des moutons. Ils allaient vendre la laine, ça allait rapporter pas mal d'argent. Nabal, ce fameux monsieur dont David, qui était extrêmement riche, qui avait énormément de troupeaux, se comptait par milliers, il va refuser complètement d'associer David et sa troupe aux réjouissances. Pourtant, ils avaient tout fait pour lui, ils n'avaient rien demandé en échange. Il a même refusé de reconnaître l'aide précieuse et la protection que David et sa troupe avaient apportée aux animaux et aux bergers, sans contrepartie. Il va même aller jusqu'à prendre clairement le parti de Saül en traitant David d'esclave enfui. Pas oublier que les gens savaient que David avait eu la victoire sur Goliath. Pas oublier ça. D'accord, il était en fuite devant la jalousie et la colère de Saül, mais quand même, c'était un chef militaire. Il avait fait ses preuves, il avait délivré le pays des géants, il avait délivré le pays des Philistins. Et comment il le traite, Nabal? un esclave en fuite. Oh, pff, il y en a plein des esclaves en fuite. Ce sera pas le premier. Là, je crois que la réflexion de Nabal, ça a été un point de non-retour pour David. Trop, c'est trop. Mais il faut se mettre à sa place. On lui rend le mal pour le bien. Saül lui rend le mal pour le bien. La cour, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais j'ai quand même cherché. Il semblerait bien, on va le voir sur deux autres versets, qu'il y avait des gens qui bourraient le mou de Saül en permanence, en disant « Ouais, David ceci, David cela. » Et donc à la cour, on lui rendait le mal pour le bien. Ils étaient pourtant bien contents hein, quand il a tué Goliath. Eux qui tremblaient, qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient immobilisés. Mais là maintenant, oh, ça c'est du passé, on lui rend le mal pour le bien. L'armée, la Bible dit qu'il avait conduit l'armée pendant un bon moment et qu'il était aimé de cette armée parce qu'il les menait à la victoire. Bah, tant que tout roule, on aime bien les gens. Les chefs, on les aime bien quand ça va bien, quand l'économie est bonne, quand tout roule. Et dans l'armée, c'est pareil. Le peuple, quant à lui, quand même, c'est quand même plus agréable d'avoir un pays avec moins de razzias, avec moins de philistins qui traînent partout. Et tous ces gens-là, et même des individus comme Nabal, ils vont lui rendre le mal pour le bien. Vous imaginez ce qu'il doit ressentir? Et ce Nabal à qui il vient de rendre service, un esclave en fuite. Un esclave en fuite, il y en a d'autres. Hein. Et là, je crois qu'il arrive à un point de non-retour où il se dit, là c'est trop, j'en ai marre. Tout le monde est contre moi, tout le monde me rend le mal quand moi je fais du bien. Trop, c'est trop. Il décide de tuer Nabal et tous les hommes de la maison de Nabal. Alors, vous savez, à l'époque, il y avait des dizaines et des dizaines de serviteurs. Enfin, c'est insensé, mais là, il n'en pouvait plus. Et vous savez, je crois qu'il y a des moments dans la vie où on a fait le bien et il n'y a pas de retour. Ça arrive. On a fait ce qu'il fallait, on a fait comme il faut, on a fait ce que Dieu nous demandait et il n'y a pas un bon retour. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive, ça peut arriver à l'école. On a fait ses devoirs, on a fait son boulot, et puis ça n'a pas marché. C'est atroce, ça. C'est dur à vivre. On a fait du bien aux gens, ils vous rendent le mal. Pas évident de vivre ça. Et ce qu'on ressent vraiment le trop-plein là chez David. Bon, je vais tuer Nabal et toute sa famille, tous les hommes de sa famille. Et c'est là, il y a une lueur d'espoir. Parce que c'est vrai, quand j'ai lu ce texte, je l'ai relu, je me suis dit, oh là là, le pauvre. Comment il a pu tenir? Parce que quand même, hein, on s'attend à ce que quand on fait le bien, bah, on vous fasse du bien en retour. On s'attend quand même pas à recevoir du mal pour le bien. C'est pas tout à fait logique. On comprend qu'il soit en colère, il craque. En plus, il vient juste avant. D'être en situation de tuer Saül. Ses soldats lui avaient dit, allez, vas-y, tu le tiens là. Oup, 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 c'est fait. Non, non, on ne touche pas au roi. Droiture, intégrité, respect de Dieu. Il a fait les bons choix. Et sa récompense, c'est quoi? Cet affreux Nabal, il veut même pas lui donner à manger, même pas l'associer à la fête. C'est fou, hein, de passer par des moments comme ça. Et c'est un peu déprimant, mais c'est là que David va découvrir quelque chose de très très important. Vous savez, quand on vit des trucs déprimants comme ça, on se dit « tout le monde est méchant ». Parce que c'est trop là, ça c'est vraiment beaucoup, Saül, la cour, l'armée, le peuple, Nabal, tout le monde il est méchant, tout le monde, et ce sont des traîtres, tous les gens. Et on a tous tendance, et vous vous souvenez de quelqu'un qui a fait ça? Élie. Après avoir eu cette victoire énorme, le prophète Élie, il se retrouve tout seul, puis d'un seul coup, il dit, il y en a marre, quoi. Je veux mourir. Ils sont tous après les dieux païens, ils sont tous prêts à sacrifier leur gosse à leur dieu, là. C'est pas possible, il y en a assez, tous. Et vous savez, on a cette tendance humaine. Quand on a accumulé pas mal de problèmes, tous les gens sont comme ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour Élie? Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. Et puis il lui a dit, j'aurais aimé entendre la voix de Dieu ce jour-là. J'ai dit, Élie, il y en a 5000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. T'es pas tout seul. Et quand on est dans ces moments-là, on a l'impression que le monde entier est contre nous, que tout le monde, c'est des traîtres, c'est ci, c'est ça. C'est important d'entendre la voix de Dieu qui dit, allez, il en reste encore des gens droits, il en reste encore des gens corrects. Il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Et qu'est-ce qu'il va découvrir, David, et ça c'est le bon côté, il va découvrir qu'il y a encore des gens sages, des gens intelligents, qui ne sont pas centrés sur eux-mêmes, sur leur propre intérêt. Et des gens qui ne sont pas comme Saül et Nabal, mais qui sont soucieux de vérité et de justice. Ça existe encore. Et parfois, nous, on se dit, oh là là, le monde est pourri. Pourquoi ? Parce qu'on regarde les nouvelles. Et c'est rare qu'on passe une demi-heure aux nouvelles pour donner les bonnes nouvelles. Les gens qui ont sauvé les autres, les gens qui ont évité des gros accidents, les gens... Bon, ceux-là, on n'en parle pas beaucoup. Ceux qui ont résorbé le chômage dans leur ville pour telle et telle raison. Bon, ceux-là, c'est pas passionnant. Par contre, les trucs tragiques, les gens qui ont trahi, qui ont vraiment fait des meurtres, etc. Alors là, il y en a des pages et des pages dans les journaux. C'est parce qu'on n'est pas logique, c'est parce qu'on s'intéresse plus à ça, certainement. Les médias ne font que répondre aux besoins des humains. Mais c'est embêtant, parce qu'il y en a encore des gens qui marchent avec le Seigneur. Et il ne faut pas qu'on ait l'impression que parce que notre société se délite, qu'il ne reste plus personne. Et surtout pour les ados. Vous pouvez avoir cette impression que le monde est pourri, que de toute façon, ce n'est pas la peine de faire des études parce que de toute façon, on ne trouvera pas de travail, etc. Bon, arrêtons la... Comment on appelle ça la sinistrose. Voilà. Il y a encore des gens qui marchent et il y a encore des choses qui marchent. Et c'est ce que Dieu va montrer. Comme il a fait avec Élie, il va faire pareil avec David. Et il va lui permettre de rencontrer... Je pense Abigail, mais avant, je ne crois pas qu'il ait rencontré le serviteur d'Abigail, mais nous, on connaît son histoire, et je pense que David l'a connu un petit peu après. Le serviteur d'Abigail va rencontrer la femme de Nabal, Abigail. Et il va lui dire des choses formidables, moi je trouve. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, on avait terminé là-dessus. C'est une sorte d'intendant qui est proche de ses maîtres. Alors lui, il aurait pu se sauver quand il a su que David allait venir avec sa troupe et tuer tous les hommes. Il aurait pu dire, sauf qui peut, je prends la tangente, maintenant que je suis au courant, je m'en vais. Et pas du tout. Il aurait pu se sauver pour éviter d'être tué, mais il pense à tous les innocents qui risquent la mort à cause de la bêtise de leur patron. Et il va trouver une solution. Il va rapporter fidèlement les faits à la femme de Nabal, Abigail. Parce qu'il sait qu'elle est capable de comprendre les situations d'injustice, et particulièrement celle qui a provoqué la colère de David. Donc il n'est pas bête ce serviteur, il réfléchit. Il n'agit pas impulsivement, sauf qu'il peut. Ou... Il se dit, on va essayer de régler cette situation. Il va vers Abigail parce que la Bible dit clairement à Nabal, c'est impossible de parler. Il est insensé, son nom veut dire insensé, complètement centré sur lui. Et il n'écoute absolument personne. La Bible qualifie de fils de Bélial, qui veut dire un vaurien. On dirait, nous, aujourd'hui, peut-être quelqu'un sans foi ni loi. Il n'en a rien à faire des autres. Il ne pense qu'à lui. Abigail, visiblement, elle a confiance dans ce serviteur. Et ce qui ressort du texte, c'est qu'ils ont visiblement l'habitude d'arranger les choses quand il y a un danger qui menace à cause de la bêtise de Nabal. Donc il va se confier dans la sagesse de la femme de son maître en lui disant « Tâche de voir ce que tu as à faire. » Quelqu'un qui réfléchit, qui pense aux autres, ça existe encore ? Allez David, voyons, il y en a encore des gens qui réfléchissent. Et maintenant, tout va dépendre d'Abigail. Alors Abigail, de son côté, elle est présentée dans la Bible comme une femme sage. Alors à ce propos... On dit souvent que la Bible, c'est un livre misogyne. Les femmes n'ont pas leur place. Bon, ça, c'est des gens qui n'ont jamais lu la Bible. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, lisez-la la Bible, si vous ne voulez pas avoir de fausses idées. Parce que s'il y a une femme qui est extrêmement mise en valeur dans cette histoire, c'est justement Abigail. Curieux, hein ? une femme à cette époque-là, qui est montrée comme plus intelligente que son mari. Ça arrive souvent, ça. Plaisanterie mise à part. Franchement, pensez à une époque où, soi-disant, les femmes n'avaient aucun rôle, étaient des servantes, etc. Elle est terriblement mise en valeur dans la Bible. Et à une époque, franchement, 1000 avant Jésus-Christ, elle est mise en valeur à cause de sa sagesse, sa connaissance de Dieu, et elle est présentée comme un modèle de sagesse. Et là, on va retrouver le dernier chapitre des Proverbes, la femme sage, dont les paroles sont précieuses, etc. Oui, ça existe. Ça existe. Et David, il a eu affaire à cette femme sage. Alors, c'est juste une révision de ce qu'on a vu la dernière fois. C'est le discours qu'elle va faire. Elle prépare toutes ses affaires. Elle part avec son âne, des petits ânes couverts de cadeaux, des fruits secs, du vin, de l'huile, de la farine, enfin, plein de cadeaux. Elle met ça devant. Et puis derrière, elle va et elle demande, elle croise David dans la montagne. Et il est encore en train de fumer de colère. Et comment est-ce qu'elle va réussir à le calmer, elle, une femme, à une époque où, soi-disant, on comptait pour du beurre. Alors, j'ai juste relevé, parce qu'on n'a pas le temps de revenir dessus, juste relevé certains points importants de son discours. Elle ne va pas lui dire « c'est mal ce que tu fais ». Mais elle va toucher son cœur et sa relation à Dieu. Et ça, pour nous, c'est une bonne leçon. Quand on veut détourner quelqu'un d'une mauvaise action, on ne sort pas le kalachnikov. On dit bah, c'est mal ce que tu vas faire. C'est en face de Dieu, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te mets face à Dieu avec cette colère? Comment tu vis ça par rapport à ta foi en Dieu? Et elle va lui dire, David, Dieu a des promesses pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je crois que c'est ce que Dieu nous dit à chacun quand on a vraiment envie de faire des bêtises. On sait que c'est pas bien, on va le faire quand même parce qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Tu n'es pas n'importe qui. J'ai des promesses pour toi. Il va lui dire, tu es sous la protection de Dieu. Enfin franchement, il est prêt à tuer son mari et tous ses serviteurs. Elle aurait pu avoir un autre discours. Mais elle fait appel à sa foi, à sa relation à Dieu. Et elle lui dit, jusqu'ici tu n'as pas désobéi, donc elle doit être un peu au courant de comment il s'est comporté avec Saül, comment il a évité de porter la main sur Saül. Jusqu'ici, tu n'as pas désobéi. Tu n'as pas commencé maintenant. Tu ne veux pas vivre avec des remords, avec des regrets. Tu sais que tu es le roi. Bien sûr, tu es en attente, mais tu es le roi, dans le cœur de Dieu. Et tu ne devrais pas permettre à un Saül meurtrier, ni à un Nabal exécrable, de te faire dévier du droit chemin. Parfois, quand on a vraiment marre de quelque chose, on a du mal à voir les choses comme ça, de se dire, je ne vais pas permettre à cette difficulté, je ne vais pas permettre à cette personne, je ne vais pas permettre à cette injustice de me détourner du droit chemin. C'est une autre façon de voir les choses. De dire, je réclame mes droits parce qu'il y en a marre, j'en ai par-dessus la tête, maintenant ils vont payer. Ça, c'est notre nature humaine. Puis de toute façon, tout le monde est pourri. Vous voyez, il y a quand même une différence là. Et pourtant, si quelqu'un pouvait dire tout le monde est pourri, c'était bien David. Parce qu'il y en avait beaucoup de pourris autour de lui. Mais elle va lui faire comprendre de ne pas permettre à un Saül meurtrier ou à un Nabal exécrable de le faire dévier du droit chemin. Tu ne vas pas permettre à des choses moches dans le monde ou des gens moches de te faire dévier du droit chemin, pour après que tu aies des regrets, pour après que tu aies des remords. Tu ne vas pas gâcher l'œuvre de Dieu par un coup de folie. Un coup de folie. On a envie d'en faire des coups de folie par moment, quand vraiment on en a complètement ras-le-bol. Et elle lui dit clairement qu'il ne doit pas se venger lui-même, que c'est Dieu qui s'en occupera. Quelle sagesse! Quelle sagesse, cette femme! Et il y a un truc qui a, c'est malheureusement pas moi qui l'ai vu, mais je l'ai repris parce que j'ai trouvé que ça parle beaucoup. C'est un des commentaires qui dit « Dieu se sert souvent des petites gens pour changer les choses. » Alors, dit Nabal, avait une femme sage et un serviteur intelligent. C'est eux qui ont déjoué, qui ont évité la catastrophe. Ils ont, comment on dit, désamorcé la bombe. Mais pensez à Naaman. Qu'est-ce qui a changé la vie de Naaman ? Une petite servante qui avait été emmenée avec des prisonniers au moment de la dernière guerre d'Israël. Ruth, une pauvre veuve, Moabite en plus, elle n'appartenait pas au peuple élu. Et elle est présentée comme une femme remarquable. Elle va être d'ailleurs la grand-mère de David. Elle est dans la généalogie de Jésus. Pauvre veuve Moabite. Esther, une orpheline, elle aussi déportée après la guerre. Déportée en Perse. C'est un pays très différent du sien. Une pauvre orpheline. Elle va éviter le massacre de tout son peuple. Waouh ! Et ça illustre bien, ce sont les choses faibles du monde qui confondent les fortes. Et c'est souvent ça dans la Bible. Ça, c'est quand même chouette dans la Bible. Il y a de l'espoir pour les choses faibles. Il y a de l'espoir pour les gens faibles. Les gens méprisés. À condition qu'ils s'appuient sur le Seigneur, qu'ils aient la sagesse de s'appuyer sur Dieu. Il y a de l'espoir pour eux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans la Bible, c'est pour ça que je voulais le noter. Ce sont souvent des petites gens qui vont changer le monde, qui vont changer les choses. Des gens sans importance. Donc il y a de l'espoir pour nous. Ensuite, évidemment, c'est quelque chose qui est formidable, c'est la réaction de David. Réaction de David, il aurait pu garder sa colère, hein, il avait le choix. Mais déjà la première chose, on va remarquer dans son discours, il n'y a pas l'ombre d'un déni. Il reconnaît avec humilité et simplicité que Dieu a bien envoyé cette femme. Qu'il voulait assurer son propre salut et sa vengeance. Et il voulait commettre un crime. Mais il n'est plus aveuglé par son droit, sa propre justice et sa sainte colère. Ce qu'il aurait pu dire, c'est une sainte colère. Il arrive à reconnaître la main de Dieu et il va même, et là je l'admire quand même, il va même jusqu'à se réjouir. Fallait le faire. De la visite d'Abigail. Et il remercie Dieu qu'elle ait réussi à l'arrêter sur un mauvais chemin. Même si dans sa culture, il avait raison. Parfois il faut savoir passer au-dessus de sa culture. Parce que dans la culture de l'époque, David était parfaitement en droit de se venger. Il avait fait du bien, on lui avait rendu le mal. Il était en droit de se venger. Sa culture ne lui aurait pas donné tort. Mais Dieu lui aurait donné tort. Donc attention, ce n'est pas notre culture qui dirige notre vie. Peu importe d'où elle vient, peu importe si elle a des millénaires d'existence, peu importe notre culture, c'est Dieu qui dirige notre vie. C'est Dieu qui décide de nos comportements, de ceux qui sont bons. Et il faut reconnaître que c'était le bon comportement. Alors, l'histoire s'est bien terminée. Vous vous souvenez que Abigail est retournée chez elle. Vie sauve pour toute sa maison. Puis quand elle est rentrée, eh ben ce fou de Nabal était en train de festoyer comme un malade. Il n'avait pas de quoi donner aux amis de David, mais il festoyait, la Bible dit, comme un roi. On imagine. Vous savez, à l'époque, si on regarde un peu ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, c'est impressionnant. Vous lisez le premier chapitre d'Esther, vous allez voir, c'est effrayant. Effrayant, ce qu'ils étaient capables de consommer, alors qu'il y avait pas mal de pauvreté. C'est effrayant. Et Nabal, voilà, vivait comme un roi. Et il était ivre. Donc, elle s'est dit, on ne peut pas lui parler aujourd'hui. Mais elle ne s'énerve pas. Le lendemain, elle lui raconte ce qu'elle a fait. Elle n'a pas peur. Mais lui, il a été tellement choqué, tellement furieux. Je pense qu'en plus, il avait bien arrosé le repas de la veille. Et il a une sorte d'infarctus. Et il va être 10 jours immobilisé, puis il meurt. Je pense qu'il était tellement centré sur lui-même, il était tellement horrifié par l'action de sa femme qu'il n'a pas supporté. Mais c'est Dieu qui a géré le problème. C'est pas David, c'est pas Abigail. Et ça, c'est important. Le cœur de David a été touché, il a changé d'attitude et c'est Dieu qui a réglé le problème. Alors évidemment, il ne faudrait peut-être pas déduire de ce verset biblique que quand on va avoir des problèmes avec qui que ce soit, ils vont mourir d'une crise cardiaque dans les 10 jours. Non. Mais Dieu résout les problèmes. C'était un cas un peu exceptionnel, mais Dieu résout les problèmes. Parce qu'il peut aussi changer le cœur des gens. Il peut changer le cœur des gens. Et ça s'est vu souvent dans des situations de travail où des gens ont été traités injustement. Pour des raisons stupides, comme le racisme par exemple. Des chrétiens qui ont souffert. Mais Dieu a trouvé la solution. Alors il n'a pas tué les gens, hein. Mais il a trouvé des solutions. Il a agi, à condition qu'on ne prenne pas les choses entre nos mains. Bon, il y a des choses qu'on peut faire, c'est sûr. Il faut consulter le Seigneur. Mais quand on ne peut rien faire, et là c'était quand même le cas, Dieu s'en occupe. Et si on laisse les choses entre les mains de Dieu, il s'en occupe. Et les situations d'injustice, que ce soit à l'école, il y en a à l'école aussi. Les profs ne sont pas parfaits. Et ils font des injustices parfois. Et parfois des injustices qui vous font bouillir le sang. Mais la Bible dit « bénissez, ne maudissez pas ». Et je pense que si vous avez un prof, un instit, qui a été vraiment injuste, ça arrive. Vous savez que c'est injuste. Je pense que c'est important que vous priez. Priez pour ce prof, priez pour cet instit. Ce n'est pas toujours volontaire. Et même si c'est volontaire, priez. Et Dieu s'en occupera. Et vous verrez des changements d'attitude, vous verrez des changements. Ça, je peux vous le garantir. Par contre, si vous vous vengez, en rendant la vie impossible à ce prof pendant tout le reste de l'année, c'est vous qui serez perdant. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Ça jouera contre vous et ça vous fera plus de mal que de bien. Par contre, priez. Priez pour que le prof change de point de vue sur vous. Priez, montrez-lui aussi que vous êtes capable d'être un bon élève. Montrez-lui qu'il a une fausse idée de vous. Parfois, ça peut être intéressant d'aller voir l'instit ou le prof gentiment. Pour le dire, vous savez, vous avez dit ça, vous avez fait ça, c'était pas juste. C'est parce que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais il faut prendre des gants, hein ? Il faut prier avant. Mais pensez-y, priez, et Dieu s'occupera de ça. Les situations d'injustice à l'école, le Seigneur s'en occupe très très bien, comme beaucoup d'autres choses. Et n'essayez pas de régler le problème par la violence, par la colère. Écoutez les conseils d'Abigail à David, et vous verrez que ça marche beaucoup mieux. Alors, on va juste entamer le texte suivant. Donc, on a fait une petite révision. Là, maintenant, tout le monde est de nouveau dans le bain avec Abigail et Nabal. On s'était arrêté sur cette histoire. Et on va reprendre donc 1 Samuel 26. Alors, un texte qui n'est pas drôle encore, le pauvre David. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme Abigail va se retrouver veuve à la tête d'une fortune extraordinaire, je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, David a décidé de ne pas la laisser seule et il l'a pris pour femme. Et alors, parfois, on est un peu étonné parce qu'il avait déjà pris Akinoam de Jizréel. Donc, ça lui fait une deuxième femme. Et les questions qui se posent, c'est comment se fait-il que dans la Bible, ce soit toléré, la bigamie. Alors, la Bible n'est pas un livre de perfection et ce qui se passe dans la Bible n'est pas nécessairement un modèle. C'est à nous de lire la Bible intelligemment et le texte qui gère le mariage, ce n'est pas celui d'Abigail. C'est Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ça le texte de base. Ce n'est pas les aventures des rois d'Israël. Sinon, on peut monter jusqu'à 300 femmes. Bon, je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de penser une, c'est déjà beaucoup. Donc, ok. Donc, voilà, quand on lit la Bible, c'est quelque chose auquel on doit faire attention. ce que les gens ont fait, leur culture, ce n'est pas normatif. Ce qui est normatif, c'est quand justement Dieu parle très clairement comme ça en disant « L'homme quittera, s'attachera, deviendra. » Ça, c'est normatif. Mais les aventures des rois, la façon de vivre, etc., non, c'est à nous de tirer ce qui est juste et bon. Et c'est ce qu'on a fait, entre autres, avec le discours d'Abigail. On va tirer ce qui est juste et bon, mais la vie de David n'est hélas pas toujours normative, en tout cas pas dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, oui. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on décide de ce qui est normatif et ce qui ne l'est pas, hein ? Eh bien, il y a 5 livres là, de la loi, et particulièrement le Deutéronome, qui ont des repères très clairs pour les domaines de la vie. Et c'est avec ça qu'on prend les histoires de la Bible. On les compare à ce qui est normatif, et ce qui est normatif, vous allez le trouver dans Deutéronome, Nombre un petit peu, et Deutéronome beaucoup, Lévitique un petit peu aussi. Voilà. Hein ? Deuxième loi, oui. Mais j'aime bien le Deutéronome, c'est pour ça que je le cite en premier. Ah, parce que je trouve qu'il est plus facile à suivre. Peut-être parce que c'est la deuxième loi. Alors, on arrive au chapitre 26 de 1 Samuel. Donc, vous pourrez préparer pour la semaine prochaine le chapitre 27 et éventuellement commencer le 28, mais en tout cas le chapitre 27, si vous voulez le préparer pour la semaine prochaine. 26. Les Ziphites se rendirent auprès de Saül à Gibéa. Qui c'était ces Ziphites ? Eh bien, c'était des casse-pieds et des traîtres qui vivaient pas très loin de Abigail et Nabal. Et ils avaient une spécialité, ces braves gens, c'était la trahison. C'est la deuxième fois qu'ils courent voir Saül pour lui dire « Nia, 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 David, il est là-bas. Tu peux aller le poursuivre. » Ils sont pas sympas, ces Ziphites, vraiment. Ils se rendent auprès de Saül à Gibéa et dire « David est caché dans les collines de Hakila. » Bon, caché avec 600 hommes, ouais. En face de la terre aride. Saül descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes. C'est marrant, mais Saül, il est tellement sûr de lui et de la bénédiction de Dieu qu'il emmène toujours. Alors, ça fait combien de plus ? 5 fois plus, merci pour les matheux. 5 fois plus d'hommes au cas où, hein, parce que David... Alors c'est fou, parce que c'est lui qui poursuit David, il n'a absolument aucune intention de se battre avec lui, et lui il emmène 3000 hommes. Ça dit quelque chose quand même. Quand on sent que Dieu n'est pas avec soi, on a une autre attitude. Hein. Quand on sent que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut prendre comme précaution ? Au lieu de simplement se repentir. Saül descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël, en plus, il n'a pas pris n'importe qui, pour chercher David dans le désert de Ziph. Vous vous rendez compte ? Il installa son campement dans les collines de Hakila, en face de la terre aride, au bord de la route. Il prenait ses précautions, lui. David habitait alors dans le désert. S'étant aperçu que Saül le poursuivait jusqu'au désert, il envoya des espions et sut ainsi que Saül était effectivement arrivé. Voyez, il ne se contente pas du qu'en dira-t-on. Hein. Lui, il vérifie ses infos. Saül, on peut lui dire n'importe quoi sur David, il avale tout. Mais David, on lui dit, Saül te poursuit, il va d'abord vérifier. Sage, très sage. Il ne croit pas les gens comme ça. Il sut que Saül était effectivement arrivé. Alors David parvint au lieu où Saül campait. Il vit le lieu où couchait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, chef de son armée, qui était l'oncle de Saül, d'ailleurs. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. Donc, le décor est posé. Pourquoi est-ce que les Ziphiens trahissaient David comme ça à chaque fois ? Alors moi, je me suis posé la question, parce que je me dis quand même, ces Ziphiens ou Ziphites, David ne leur avait rien fait. Eh bien, il y a numéro un, peut-être la jalousie. La jalousie peut faire des choses étranges. La peur de cette troupe qui traîne là dans le désert tout le temps. La charge, parce que bon, ces gens-là, ils devaient manger. Donc, je pense que quelque part, il fallait les ravitailler, même s'ils payaient. Surtout, je crois se faire bien voir de Saül. Se disant, là, on va voir, on va être dans les petits papiers du roi. Se faire valoir, se donner de l'importance, se venger. Est-ce qu'ils ont été déçus par David, peut-être? Peut-être qu'ils s'attendaient à autre chose. Vous savez, il y en a un qui a trahi aussi parce qu'il était déçu. Vous voyez à qui je pense? Judas. Judas pensait que Jésus allait chasser les Romains. Judas pensait que Jésus allait tout changer. Ils allaient retrouver leur souveraineté, leur pays. Ils n'allaient plus être occupés par ces soldats romains qui faisaient la pluie et le beau temps chez eux, qui percevaient des impôts, etc. Et il a vu que Jésus, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Quoi ? Tu vas nous laisser ? Soumis aux Romains ? C'est païen ! T'as vu comment ils se comportent ? Mon royaume n'est pas ce monde. Judas était écœuré. Écœuré. Il a trahi Jésus. Il a regretté, mais trop tard. Est-ce que David a déçu les Ziphites, peut-être ? L'ingratitude aussi, ils ont oublié. Ils ont oublié Goliath, ils ont oublié les victoires sur les Philistins. Et la trahison, bah, ça fait partie de la vie. En tout cas, ça fait partie de la vie de David. On peut la rencontrer à tous les niveaux. Des gens à qui on fait confiance, qui déçoivent. Mais ce qui est important, c'est pas tellement la trahison. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Quelle est notre réaction? Parce que notre réaction, c'est un choix. Alors moi, j'ai vu différentes réactions. Il y a des gens qui vont se fermer totalement, complètement, et rester dans l'amertume, une amertume terrible. Ouais. Puis, alors c'est eux qui disent, tous les gens sont des traîtres, tout le monde. Et ils ne vont pas en sortir. Et ils vont vivre dans cette amertume. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est dur une trahison, mais si on s'enferme dedans comme ça, là il faut faire la maison d'Élie. Hein. Il y en a d'autres, malheureusement j'en connais aussi, qui vont rester ouverts à tout et retomber sans arrêt dans les mêmes problèmes. Ça fait mal au cœur parce que c'est des gens gentils. Et puis, ils prennent pas de précautions et à chaque fois, ils se refont trahir, marcher dessus, sur oh non, ce pauvre, on a pitié. Mais c'est pas non plus ce que Dieu demande, qu'on soit des paillassons. Alors, il nous reste quoi comme solution? C'est de chercher la sagesse de Dieu. Alors, vous savez ce que Dieu dit? Soyez prudents comme des serpents, mais purs comme la colombe. Ça fait partie des grands paradoxes encore de la Bible. Hein. Il faut les deux. Purs comme la colombe. On ne va pas faire d'action néfaste, mais on reste prudent. Et vous savez, un serpent, d'ailleurs, vous savez, quand vous allez en montagne, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou si vous allez dans des zones où il y a des serpents, faites du bruit. Faites du bruit. Parce que le serpent, dès qu'il y a un petit peu de vibration, il est sans et pouf, il se sauve. C'est magnifique. Tout au moins en France. Je ne sais pas ce qui se passe en Inde. Mais il n'aime pas le bruit. Et donc, souvent, quand on est en montagne, hein, on a des bâtons et on tape un petit peu dans les buissons autour du sentier. Parce que parfois, ils aiment bien dormir au soleil, plein milieu du chemin. Donc, on fait un petit peu de bruit, ça suffit. Le serpent, il s'en va. Le serpent, il est prudent. Il ne va pas chercher les ennuis. Et je crois que Dieu nous demande cette prudence. Parce que des trahisons, il y en aura toujours, volontaires ou involontaires. Et s'appuyer sur l'homme, lui faire entièrement confiance, je parle d'une confiance aveugle, la Bible dit « malheur à l'homme ». Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Je ne dis pas qu'il faut faire confiance à personne, mais simplement faire une confiance aveugle dans un autre être humain, c'est insensé. Est-ce qu'on peut déjà se faire totalement confiance à soi-même ? Hélas, non. Et l'épître de Jacques dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc je crois que là, il y a un besoin de sagesse. Hélas, le pauvre David, il n'y pouvait rien. Mais il y a des situations dans la vie où Dieu nous demande la sagesse, la prudence du serpent. On ne va pas s'exposer à tout un tas de difficultés. Dieu nous demande d'être prudent et sage, et pas méfiant. Alors quand j'étais jeune, il y avait un truc qui m'avait follement amusée. Puis j'ai réalisé quand même que c'était pas très bien. C'est un, paraît-il, un proverbe suisse qui disait « Ma vie est fondée sur deux principes. » Deux ou trois, c'est pas grave. Méfiance, méfiance, méfiance. Et je trouvais ça très marrant. Et j'aimais bien dire ça. Ma vie est fondée sur deux principes. Méfiance, méfiance. Mais c'est pas ce que la Bible nous demande. Vivre dans la méfiance constamment, ce n'est pas une vie. C'est pas une vie. Dieu nous demande simplement d'être prudent et sage, mais pas méfiant. Et de toute façon, il y aura des trahisons. Elles peuvent avoir lieu, même si on est prudent. Vous voyez bien que c'est le cas ici. Se confier en Dieu. Prier. Demander la sagesse et la prudence. Et puis, gérer les trahisons avec la sagesse de Dieu. Et le pardon, ça sert aussi à quelque chose. Parce que nous aussi, parfois, sans le vouloir, on peut trahir la confiance de quelqu'un, bêtement. Ça peut arriver. On n'est pas au-dessus des autres. Donc, le pardon, c'est important. Alors, David va vérifier son info. Effectivement, les 3000 hommes sont là. Il va voir le camp. Et là, on a une description. Vous voyez, c'est ça que j'aime aussi dans la Bible. Cette vérité, cette authenticité, telle qu'il décrit le camp, c'est exactement comme ça que les historiens vont décrire les camps militaires de cette époque. Le roi ou le chef est au milieu du camp. Autour, il y a les ravitaillements, les chariots, etc. Et puis, pour savoir où est la tente du chef, on plantait la lance dans le sol. La lance était longue et haute, et on savait qu'il était là au centre, à côté de sa lance. Ça, vous l'avez dans les livres d'histoire. Vous voyez que la Bible n'est pas un conte de fées. Elle est très, très précise, parfois. Et qu'est-ce qu'il va faire, David? Pourquoi c'est si intéressant que ça, le camp? C'est parce qu'il lui vient une idée. La dernière fois, il a essayé de faire comprendre à Saül qu'il n'avait rien à craindre de lui et qu'il avait eu l'occasion de le tuer et il ne l'avait pas fait. Il avait juste coupé un bout de son manteau pour lui dire « Regarde, tu vois bien que j'en veux pas à ta vie, voyons. » Et il s'est dit « Je vais recommencer. » La leçon n'a pas marché la première fois. Donc il se dit « Je vais recommencer. » Mais là, il est franchement fou. Hein. Et il est entouré de gens qui sont franchement fous, je trouve. David demanda, donc verset 6, à Ahimelech le Hittite. Vous voyez, on les retrouve là, les Hittites. Et Abishai, fils de Tseruya et frère de Joab, donc c'est son neveu. Il est un peu fou d'ailleurs, ce neveu, je trouve quand même. Il était hyper courageux, rien qu'à le voir. Bon, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? La Bible ne dit pas ce qu'Hittite, le Hittite a répondu, mais apparemment c'était non. Hein. Abishai a répondu, moi, je descendrai avec toi. Je viens avec toi, tonton. Et franchement, David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Saül était couché et dormait au milieu du camp. Sa lance était plantée en terre, près de sa tête, on voyait, historiquement. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abner, c'est donc l'oncle de Saül et le chef de son armée, qui était couché, donc pas loin, autour. Et Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu t'a livré ton ennemi. Laisse-moi, je te prie, le clouer à terre avec ma lance, d'un seul coup. » Je n'aurais pas besoin de lui en donner un second. Autrement dit, tu sais, moi je suis bon, hein. Je ne le louperai pas. Le premier sera le bon. David dit à Abishai, « Mais il ne le fait pas périr. » Et là, je me dis, le pauvre Abishai, il a dû dire, « Mais il veut quoi, là ? On risque notre peau à traverser un camp ennemi. On est là, à côté, on n'a plus qu'à planter la lance. » Il y a une femme qui avait fait ça avec le pieu de la tente, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis il ne veut pas. Et qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ne le fais pas périr. Qui donc pourrait porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur et être déclaré innocent? Et David dit, par la vie du Seigneur, c'est au Seigneur seul de le frapper. Soit que son jour vienne, qu'il meure, soit qu'il descende au combat, qu'il y soit emporté. Bah, il venait de voir ce qui s'était passé avec Nabal, je pense que... Il avait compris quelque chose. Maintenant, je te prie, prends la lance qui est près de sa tête avec la cruche d'eau et allons-nous-en. On n'est quand même pas venu pour chercher une lance et une cruche d'eau, quoi. C'est un soldat, Abishai. C'est un soldat fou en plus. On va voir après, j'ai regardé un peu dans la suite. C'est waouh, on y va. Prendre une cruche d'eau et une lance. Non, mais on n'a pas pris tous ces risques-là pour ça, si. Si, parce que le but de David, c'était de faire comprendre à Saül, arrête de me poursuivre, j'en veux pas à ta vie. J'en veux pas à ta vie. Ta vie, elle est entre les mains de Dieu. Et c'est mon Dieu aussi. Et s'il n'a rien fait pour te destituer jusqu'à présent, c'est pas moi qui vais le faire. Quelle fidélité à Dieu. Quelle fidélité à Dieu. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance. Bon, je pense qu'ils avaient marché aussi dans le désert pendant pas mal de temps. Personne ne se réveilla, car ils dormaient tous. En effet, une torpeur venant du Seigneur était tombée sur eux. Le Seigneur a donné un petit coup de pouce pour que tout le monde dorme bien. Et là, David va refaire ce qu'il a fait. Vous vous souvenez, c'est pour ça qu'on ne va pas s'y attarder trop longtemps. Il va refaire ce qu'il a fait au moment de la caverne. Il passe de l'autre côté et il s'arrête à une bonne distance au sommet de la colline voisine. J'aime bien le verset. Il y avait beaucoup d'espace entre eux. Il n'est pas fou non plus complètement. Il s'est dit, je ne vais pas rester trop près parce que s'il se lève et qu'il me court après, faut qu'il y ait quand même, j'ai le temps de me retirer. Hein. Il n'est pas complètement tête brûlée. David cria vers le peuple et vers Abner. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui auront des idées, mais je me suis posé la question et je n'ai pas tellement trouvé de réponse. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse au chef de l'armée, qui est l'oncle de Saül, plutôt que directement à Saül? Respect, peut-être. Ou, je pense qu'il y avait beaucoup d'ironie dans ce qu'il dit. Écoutez un peu ce qu'il lui dit. « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ?» Oula, qui est-on pareil en Israël ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton seigneur ? Quelqu'un du peuple est venu pour faire périr le roi. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Par la vie du Seigneur, vous méritez la mort. Pour n'avoir pas gardé votre Seigneur, l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Vous avez dormi, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient près de sa tête. » Il s'est payé le luxe de rigoler un petit peu, là. Alors, essayez de réfléchir. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut faire penser ? Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme dans les pièces de théâtre où on a besoin de se détendre un peu parce que l'action est tellement dramatique. Je crois qu'il s'est lâché, là, David, tout simplement. Il s'est lâché. Oh, le stress était tellement terrible. Et Saül va reconnaître la voix de David. Et là, on va retrouver notre Saül. Il est déprimant, cet homme. Est-ce que c'est bien ta voix, David, mon fils ? Et David répond, c'est ma voix, au roi, mon Seigneur. Et dit, pourquoi me poursuis-tu ? Qu'ai-je fait ? En quoi me suis-je mal conduit ? Et voyez, à chaque fois, il pose des questions, David. Il n'accuse pas. Pourtant, il aurait de quoi dire. Hein ? Mais il pose des questions. Et vous savez, dans les quatre conflits, je dis souvent aux gens, posez des questions. Posez des questions plutôt que de foncer dans le chou des gens et de les accuser de tous les maux de la terre. David, pourtant, il sait très bien que ça va peut-être pas donner grand-chose, mais il pose des questions. Maintenant, ô roi, mon Seigneur, écoute-moi, je te prie. Et là, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Si c'est le Seigneur qui t'incite à me faire du tort, qu'il accepte une offrande. Il est logique. Parce que parfois, on se pose la question, mais tous ces ennuis que j'ai là, mais c'est peut-être le Seigneur qui est derrière. Ça peut, parfois. Mais lui, il est logique. Il dit, bon, si c'est le Seigneur qui t'incite à me poursuivre, il va accepter une offrande. Et les offrandes, vous savez, c'était les offrandes d'expiation pour demander pardon. On allait voir le prophète, etc., ou le prêtre. On sacrifiait un animal, on demandait pardon à Dieu. Et on savait qu'on obtenait le pardon. Donc c'était fini. Mais si ce sont des humains, ouais, il est logique. Ou c'est Dieu, et auquel cas, je peux m'arranger avec lui, je vais aller le trouver, je vais demander pardon, je vais faire ce qu'il faut. Ou alors, et c'est là qu'on voit ce que je disais tout à l'heure, ces gens qui passent leur temps à remonter Saül contre David. Mais si ce sont des humains, qu'ils soient maudits devant le Seigneur, parce qu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher du patrimoine du Seigneur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? En disant, va servir d'autres dieux. Oh, que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face du Seigneur, car le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il veut dire, David ? Ça veut dire, alors à l'époque, il y avait une croyance chez tous les peuples de l'époque que leur Dieu était attaché à leur terre. David savait très bien que ce n'est pas vrai, puisqu'on voit dans les psaumes, c'est pas ce qu'il dit, mais c'était quand même une croyance locale. Et il dit, écoutez, si ce sont des humains qui cherchent à te dresser contre moi, ça veut dire qu'ils me poussent, si l'on en croit les coutumes des peuples, il me pousse à aller adorer d'autres dieux, à vivre dans un pays idolâtre, un pays païen. Alors je me suis dit, mais pourquoi il dit ça là ? Il ne l'a pas dit la dernière fois. Eh bien, on va comprendre, vous allez comprendre quand vous allez travailler le chapitre 27. Parce que c'est la dernière solution de David. Ça va être de fuir chez les Philistins, les ennemis numéro un. Il leur avait tué les géants, il avait tué Goliath, etc. Et je vais juste revenir là-dessus pour terminer. Le début du chapitre 27, David se dit « Je serai un jour emporté par la main de Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de m'échapper en allant au pays des Philistins, afin que Saül finisse par renoncer à me chercher dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. On lit au verset 4, « Il cessa de le chercher. » Donc, il avait tout compris. S'il dit ça, là, c'est parce qu'il savait qu'il lui restait plus qu'une solution maintenant. Si Saül ne changeait pas, il allait devoir partir, vivre chez les païens. Alors nous, évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose. Parce qu'on peut aller en Allemagne, on peut aller au Canada, on peut aller en Afrique, on peut aller en Asie. Bon. Il y a des différences de culture, mais à cette époque-là, c'était le jour et la nuit. Hein. Ces peuples, comme les Philistins, rappelez-vous que c'était des peuples qui brûlaient leurs bébés sur des autels auprès, pour leur Dieu. Des gens qui avaient une façon de vivre qui était totalement différente de celle d'Israël. Leur Dieu était cruel, était dur. Rien à voir avec le Dieu d'Israël, qui était un Dieu qui pardonne. Donc, aller vivre chez ces gens-là, c'était l'horreur. Et il va devoir le faire. Alors là, je voudrais aussi que vous réfléchissiez peut-être. Pourquoi ? Pourquoi il est allé jusque-là? La souffrance que ça a dû faire. On termine avec la réaction de Saül. Oh, là, on le retrouve bien, Saül. J'ai péché. Oh, c'est merveilleux, il reconnaît. Première étape du TQP, première étape de la maison d'Élie, reconnaître. J'ai péché, reviens, David, mon fils, je te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi stupidement. Oh, deux, j'ai commis une grande erreur. Trois. Oh là là, mais il a pris le bon chemin là, il reconnaît. Mais c'est merveilleux, il est bon pour la maison d'Élie là. Reconnaître, première étape. Il confesse, il renonce. Je te ferai plus de mal. Ouais. Ouais. David répond, voici la lance du roi, que l'un de tes serviteurs vienne la prendre. Je vous la rapporterai pas, j'ai trop peur. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa probité, car le Seigneur t'avait livré aujourd'hui à moi, et je n'ai pas voulu porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Et comme en ce jour, ta vie a été un grand prix à mes yeux, d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux du Seigneur. Il dit pas de toi, hein, aux yeux du Seigneur. Il a compris quelque chose d'important, et il me délivrera de toute détresse. Verset qu'on retrouve beaucoup dans les psaumes, hein. Saül dit à David, sois béni David mon fils, tout ce que tu feras tu le réussiras. En plus il accompagne ça d'une bénédiction. David continua son chemin et Saül rentra chez lui. On a vu qu'après il va partir chez les Philistins. On va travailler là-dessus. Dernière chose, bah écoutez, il était bien parti là Saül, si on en croit la maison d'Élie et le TQP. Reconnaître, confesser, renoncer. Il bénit en plus. Il manque quelque chose, non? La repentance. Il ne demande pas pardon une seule fois. Il a accumulé trahison sur trahison. Il lui a mis 3000 hommes à ses trousses. Aucun pardon. Il lui a pris sa femme. Il l'a donnée à quelqu'un d'autre, Michal. J'en passe, c'est des meilleurs. Il lui a lancé sa lance quand même une fois. Un ou deux, je crois. Voyez, où est-ce qu'elle est la demande de pardon, là? Et voyez comme quoi reconnaître, confesser, renoncer, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il manque l'essentiel, c'est la repentance, c'est demander pardon à Dieu et demander pardon à la personne. Alors attention de ne pas se mentir à soi-même en reconnaissant nos fautes. Parce qu'on peut faire la même chose envers soi-même. Oh, Seigneur, je vaux rien, je suis ceci, je suis cela, je ceci, j'ai fait des bêtises, etc. Ceci étant, moi je suis un peu gênée, hein. J'ai péché, j'ai agi stupidement, j'ai commis une grande erreur. Quand vous avez voulu tuer quelqu'un pendant des mois et des mois, je suis pas sûre que ce soit une grande erreur, moi. Enfin bon, quand même, hein. ils minimisent. Et vous vous souvenez, quand on a fait la maison d'Élie, ils ont insisté sur le fait de minimiser les fautes. C'est la dernière chose à faire. Il a fait une grande erreur. Bon, c'est pas de la stupidité, c'est pas une erreur. C'est un crime, c'est une trahison, c'est une tentative de meurtre. Peut-être appeler les choses par leur nom. Quand même. Et vous savez que dans les prières de repentance, on insiste sur le fait d'appeler les choses par leur nom et de ne pas minimiser les choses. Et Saül est très bon pour minimiser. Mais enfin, il a essayé de le tuer avec une lance, il est à ses trousses avec 3000 hommes et je fais une erreur. Bon oui, des erreurs comme ça, ça s'appelle des meurtres ou des tentatives de meurtre. Donc attention de ne pas se mentir à soi-même. On peut avoir l'impression de confesser nos péchés et de décider de ne plus faire ceci et cela. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être précis, de ne pas minimiser, de ne pas se trouver des excuses et de demander pardon. Seigneur, j'ai mal agi envers toi, envers les autres, envers moi-même parfois aussi. Demandez pardon. La repentance est la seule clé. Et parce que Saül ne s'est jamais repenti, il a reconnu, oh oui, ça, toujours, presque toujours. Mais il ne s'est jamais repenti. Vous allez voir qu'il va mal finir et c'est dommage. C'était un homme remarquable. Rappelez-vous, Samuel, il en a pleuré toute une nuit quand il a vu qu'il prenait le mauvais chemin. Donc, prenons pas le chemin de Saül, mais plutôt le chemin de David. On l'a vu avec Abigaël. Il a complètement changé. Et je crois que David est un beau modèle dans ce domaine. Il ne se contente pas de reconnaître, mais il prend les bonnes décisions. Il demande pardon. Je crois que c'est la même chose pour nous.
Pour votre travail personnel, je rajoute une autre problématique qui serait bon de réfléchir, que Michel n'a pas évoquée, mais qui est très importante. Certains chrétiens, dont beaucoup d'évangéliques pentecôtistes, entre autres, disent qu'il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Vous avez vu, c'est... Oui, tu l'as fait la dernière fois. Mais réfléchissez à ça. Réfléchissez à comment on utilise cette phrase. Voilà, ne touchez pas à loin de l'Éternel. C'est vrai que Saül était loin, mais au moment où il a cette entrevue avec David, est-ce qu'il était toujours dans la volonté de Dieu? Oui, non? Réfléchissez. Et la seule alternative de celui qui a été oint, c'est David. C'est deux oints. Hein. Sauf que David était fidèle. Et il a dû aller dans un autre pays où ils adoraient les idoles, alors que lui est en train de transformer Israël en idolâtrie. Donc réfléchissez à ça pour ne pas utiliser cette phrase à tort et à travers. Parce que justement, la Bible nous demande d'utiliser sa parole selon la volonté de Dieu et pas selon ce que nous paraît sage. Et voilà, David a dû fuir la présence de cet ouin, mais qui était en train de totalement dévier. Donc parfois il faut fuir les ouins, en tout cas ceux qui ne le sont plus, pour se préserver et attendre que Dieu fasse justice. C'est à lui d'ôter la vie, mais parfois Dieu est plus terrible. Que ce que nous pensons, parce que lui, il a droit d'ôter la vie quand c'est nécessaire et on ne voudrait pas être à la place de cet oint qui est en train de dévier. On connaît la suite de ça.